Chapitre 6. Le sous-sol de la grange offrait une fraîcheur trompeuse, mêlée à l'humidité, à l'odeur de toile d'araignée et d'eau souterraine. Le soleil l'éclairait de ses rayons poussiéreux à travers les fenêtres étroites, mais la chaleur du jour n'y avait pas pénétré. C'est là que le garçon gardait le faucon, et l'oiseau semblait à son aise. David n'arpentait plus le ciel. Ses plumes avaient perdu de leur lustre, de cet éclat animal qu'elle revêtait encore 3 ans plus tôt, mais son regard était plus perçant et immobile que jamais. On ne peut se lier d'amitié avec un faucon, à ce qu'on dit, à moins d'être soi-même à moitié faucon, seul et solitaire, en escale dans ce monde, sans amis ni besoin d'amis. Le faucon n'accorde aucun prix ni à l'amour ni à la morale. David était devenu un vieux faucon. Le garçon espérait en être lui-même un jeune. « Aïe !» dit-il doucement, en tendant le bras vers le perchoir. Le faucon avança sur le bras du garçon et y demeura immobile, décapuchonné. De l'autre main, le garçon alla chercher dans sa poche un lambeau de viande séchée. Le faucon l'arracha prestement d'entre ses doigts et le fit disparaître. Le garçon se mit à caresser l'oiseau avec beaucoup de précaution. Corte n'en aurait probablement pas cru ses yeux, mais il ne croyait pas non plus que l'heure du garçon était venue. « Je crois que c'est aujourd'hui que tu vas mourir, » dit-il en continuant à le caresser. « Je crois que tu vas servir de sacrifice, comme tous ces petits oiseaux avec lesquels je t'ai entraîné. Tu te rappelles? Non? Peu importe. À partir d'aujourd'hui, c'est moi le faucon, et ce même jour de chaque année, je tirerai dans le ciel en mémoire de toi. » David se tenait sur son bras, silencieux, l'œil fixe, indifférent à sa propre vie et à sa propre mort. « Te voilà devenu vieux, » fit pensivement le garçon. « Et peut-être n'es-tu pas mon ami? Il y a seulement 1 an, ce sont mes yeux que tu aurais essayé d'arracher au lieu de ce bout de viande, n'est-ce pas? Corte rirait bien. Mais si on s'en approche assez, si on s'approche assez de ce ladre, s'il ne se doute de rien, lequel l'emportera, David? L'âge ou l'amitié? » David ne répondit pas. Le garçon l'encapuchonna et se saisit de la tache enroulée au bout du perchoir. Ils quittèrent la grange. Chapitre 7. La cour située derrière le grand hall n'était pas une véritable cour, mais plutôt un couloir vert dont les murs étaient formés par d'épaisses haies enchevêtrées. C'était le théâtre du rite de passage depuis des temps immémoriaux, bien avant l'époque de Corte ou de son prédécesseur, Marc, qui était mort poignardé par une main trop zélée en ces lieux mêmes. Bon nombre de garçons avaient quitté le couloir par l'est où entrait le professeur et l'avaient quitté en homme. La sortie est faisait face au grand hall, à toute la civilisation et aux intrigues du monde éclairé. D'autres, bien plus nombreux, s'étaient éclipsés furtivement, battus et ensanglantés par la sortie ouest, celle par laquelle pénétraient toujours les garçons. Ceux-là étaient sortis garçons à jamais. L'issue ouest faisait face aux fermes et aux cabanes au-delà des fermes. Au-delà encore, le fouillis végétal des forêts barbares, au-delà, Garland, et après Garland, le désert Moen. Tout garçon qui devenait un homme progressait des ténèbres de l'ignorance vers la lumière et la responsabilité. Tout garçon battu ne pouvait que battre en retraite pour toujours et à jamais. Le passage était aussi vert et lisse qu'un tapis de jeu. Il mesurait exactement 40 mètres de long. En son centre se trouvait une bande de terre rasée. C'était la ligne, celle qu'on tentait de franchir. À chaque extrémité s'entassaient en général des spectateurs et des parents tendus, car la date du rituel était souvent prévue avec une grande précision. Le plus couramment, à l'âge de 18 ans, ceux qui n'avaient pas passé l'épreuve à 25 sombraient pour la plupart dans l'obscurité, devenaient fermiers, incapables qu'ils étaient d'affronter la réalité brutale du tout ou rien. Mais ce jour-là, il n'y avait que Jamie DeCurry, Cuthbert Allgood, Alan Jones et Thomas Whitman. Ils s'agglutinèrent du côté du garçon, bouche bée, ouvertement terrifié. « Ton arme, idiot !» siffla Cuthbert au supplice. « Tu as oublié ton arme !»« Je l'ai !» répondit le garçon. Il se demanda vaguement si la nouvelle de sa folie avait déjà atteint les demeures, sa mère et Martin. Son père était à la chasse et ne serait pas de retour avant plusieurs jours. Le garçon en ressentait une sorte de honte, car il savait qu'en son père il aurait trouvé de la compréhension, sinon son approbation. « Cort est entré ?»« Cort est ici !» La voix venait du bout du couloir, et Cort s'avança d'un pas, vêtu d'un maillot court. Un large bandeau de cuir lui saignait le front pour empêcher la sueur de lui couler dans les yeux. Il portait une grosse ceinture sale pour lui tenir le dos droit. Dans une main, il tenait un gros bâton de bois de fer pointu à une extrémité, aplati à l'autre. Il prononça les premiers mots de cette litanie que tous, choisis par le sang aveugle de leur père depuis Arthur l'aîné, connaissaient depuis leur premier âge et qu'ils avaient apprises en prévision du jour où peut-être ils deviendraient eux aussi des hommes. « Viens-tu ici dans un dessein sérieux, mon garçon ?»« Je viens dans un dessein sérieux. » « Viens-tu ici, exclu de la maison de ton père ?»« C'est ainsi que je viens. » Et ainsi qu'il resterait jusqu'à ce qu'il ait vaincu Cort. Si c'était Cort qui l'emportait, il demeurerait à jamais un exclu. « Viens-tu avec l'arme de ton choix ?»«
Oui. »
« Quelle est cette arme ?» C'était le privilège du maître, l'occasion pour lui d'adapter son plan de bataille à la fronde ou à la lance, à l'arc ou au bas. David est mon arme. Cort n'eut qu'un instant d'hésitation. Preuve de sa surprise, probablement même de sa confusion. C'était une bonne chose. Ce pourrait être une bonne chose. « Ainsi tu viens m'affronter, mon garçon. »«
Oui. »«
En quel nom ?»«
Au nom de mon père. »«
Dis son nom. » »« Stephen Deskane, de la lignée du grand roi d'Eld. »« Dans ce cas, sois prompt. »
Et Cort s'avança dans le couloir, faisant sauter son bâton d'une main à l'autre. Un soupir voltigea au-dessus des garçons comme un oiseau, tandis que leur Darndin avançait à la rencontre de son maître. David est mon arme, maître. Cort avait-il compris? Et si tel était le cas, avait-il compris pleinement? Si oui, tout était vraisemblablement perdu. Il avait tout misé sur l'effet de surprise et sur ce qu'il restait de tripes à ce faucon. Resterait-il posé, stupide et impassible sur le bras de Roland pendant que ce dernier se ferait décerveler à coups de gourdin? Ou bien s'échapperait-il dans le ciel vaste et brûlant? Alors qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre, chacun d'un côté de la ligne comme l'exigeait la circonstance, le garçon desserra le capuchon du faucon de ses doigts inertes. Il tomba sur l'herbe verte et Cort s'immobilisa. Roland vit les yeux du vieux guerrier se poser sur l'oiseau et s'arrondir de surprise, tandis que la prise de conscience montait doucement en lui. Maintenant, il comprenait. « Oh, espèce de petit crétin !» grogna presque Cort, et Roland se sentit soudain furieux qu'on s'adressât ainsi à lui. « Attaque !» cria-t-il en levant le bras. Et David s'envola comme une balle brune et silencieuse, ses ailes courtes pompant l'air une fois, deux fois, trois fois, avant de piquer droit sur le visage de Cort, les serres en avant plongeant le bec. Des gouttes rouges jaillirent dans l'air bouillant.
« Hey Roland !» hurla Cuthbert, fou de joie. « Le premier sang versé, le premier sang pour ma poitrine !»
Il se frotta le torse assez fort pour y imprimer un bleu qui mettrait plus d'une semaine à disparaître. Cort vacilla en arrière, perdant l'équilibre. Le bâton de bois de fer s'éleva,
battant vainement l'air autour de la tête de Corte. Le faucon n'était qu'une liasse de plumes ondulantes et floues. Pendant ce temps, le garçon s'avança comme une flèche, la main tendue à angle droit, le coude verrouillé. C'était sa chance, très probablement la seule qui se présenterait à lui. Pourtant, le maître faillit encore être trop rapide pour l'oiseau. L'oiseau avait neutralisé 90% de son champ visuel. Pourtant, Corte brandit de nouveau le bâton, boupla en avant et fit de sang-froid la seule chose qui, à ce stade, pouvait encore faire basculer l'issue du combat. Gonflant les biceps, il se frappa le visage, sans pitié, trois fois. David tomba, brisé. Une aile continua de battre frénétiquement le sol. Les yeux froids de prédateurs fixaient avec rage le visage sanglant et dégoulinant du professeur. Le mauvais œil de Corte saillait aveuglément de son orbite. Le garçon envoya à Corte un coup de pied dans la tempe, le secouant fermement. Ça aurait pu marquer la fin du combat, mais ce ne fut pas le cas. L'espace d'un instant, le visage de Corte devint mou, puis il se jeta en avant, attrapant le garçon par le pied. Le garçon fit un bond en arrière et trébucha. Il s'étala de tout son long. Il entendit au loin les cris de désarroi de Jamie. Corte s'apprêtait à lui tomber dessus pour en finir. Roland avait perdu l'avantage et ils le savaient tous les deux. Ils se regardèrent un moment, le maître debout au-dessus de l'élève, des gouttes de sang dégoulinant de la partie gauche de son visage, son mauvais œil presque fermé, ne laissant plus voir qu'une fine fente blanche. Pas de bordel pour Corte ce soir. Quelque chose déchira la main de Roland. C'était David déchiquetant désespérément tout ce qu'il pouvait attraper. Il avait les deux ailes brisées. Qu'il fût toujours en vie était incroyable. Le garçon l'empoigna comme une pierre, insoucieux des entrailles, du bec qui plongeait dans la chair de ses poignets pour en arracher des rubans. Au moment où Corte se jetait sur lui, les bras déployés, Roland lança le faucon en l'air.
« Hey, David, tue !»
Alors Corte lui masqua le soleil et s'effondra sur lui.